blague de la matinale, ce sera aujourd'hui une heure pour lire, pour débattre, pour rire et pour déclamer. Charline Vanhoenacker nous rejoindra tout à l'heure, Daphné Burki aussi, avec la nouvelle pensionnaire de la Comédie Française, elle a 26 ans. Et à 9h20, le débat du jour, la natalité s'effondre, on en parle partout, les jeunes ne font plus d'enfants, mais pourquoi ? Parce qu'ils privilégient leur liberté et leur confort ou parce que la société ne leur en donne plus les moyens. Un philosophe et une sénatrice s'opposent sur les raisons de cette dégringolade. Mais tout de suite, le grand portrait.
France Inter. La grande matinale. Sonia de Villers.
Je n'avais pas envie de lire Delphine de Vigan, figurez-vous. Pas envie qu'on me tende ce miroir-là. Pas envie de voir écrire noir sur blanc que nos smartphones renferment bien plus que nos données, qu'ils ont confisqué nos vies. Pas envie de savoir non plus que plus on est connecté, plus on est seul. Eh bien, j'ai lu. Je suis Romane Monnier et j'ai été emportée. C'est un roman profond sur l'absence. L'histoire d'un homme qui se retrouve en possession du téléphone d'une inconnue. Il accède à ses messages, ses photos, ses likes, ses achats, ses mémos et même au battement de son cœur. Il devient accro, il veut tout savoir sur elle, d'autant que sa vie à lui est tentée par un autre fantôme féminin. Alors pourquoi les livres de Delphine de Vigan sont-ils pleins de femmes qui disparaissent ? Et pourquoi les disparues continuent-elles d'emplir le vide de nos existences ? Portrait numéro 73. Bonjour Delphine de Vigan.
Bonjour Sonia.
Vous avez coupé votre téléphone portable ?
Oui, bien sûr, il n'est même pas dans la pièce.
D'habitude, on dit ça en coulisses, mais là, forcément, c'était irrésistible. Je suis Romane Monnier. C'est ce roman qui paraît demain aux éditions Gallimard et je le dis, c'est l'un des livres les plus attendus en cette rentrée littéraire de janvier. Je me suis posé la question, vous inventez un personnage, Delphine de Vigan, il faut lui choisir un prénom. Vous écrivez des romans et vous choisissez Romane, justement pour nous dire que c'est un être de pure fiction.
Oui, enfin, je pense en tout cas que ça a participé au choix de ce prénom. C'était aussi
romanesque.
Romane et romanesque, bien sûr. Et d'ailleurs, à un moment donné, j'avais envie d'appeler le roman Romane. Mais voilà. Et puis, c'est aussi un prénom très générationnel puisque c'est Romane à 29 ans, Romane Monnier à 29 ans. Et c'est un prénom qui a été très souvent donné à cette époque.
Vous avez regardé les statistiques ?
Absolument.
Ah oui, c'est ça. C'est presque un journal intime que Thomas, votre héros, se retrouve à avoir entre les mains, une sorte de journal intime pixelisé. Avoir accès à la vie des autres, c'est le fantasme absolu de l'écrivain.
Oui, bah bien sûr, j'adorerais découvrir le journal intime de quelqu'un que je ne connais pas, pouvoir pénétrer comme ça au plus profond de ses pensées, de ses souvenirs. Mais c'est aussi très jubilatoire d'inventer un journal intime. De le créer de toutes pièces et d'avoir créé ce personnage de Romane Monnier que j'ai inventé au fil des pages. Le journal intime que Thomas découvre, c'est presque un peu l'acmé du roman, c'est-à-dire ça vient après un certain nombre d'autres découvertes qu'il a pu faire sur cette jeune femme. Et pour moi, je me disais, ces fragments intimes, quand il arrive à les découvrir, parce que autant tout le reste est très accessible, et d'ailleurs Romane Monnier lui a donné les codes de son téléphone pour qu'il puisse naviguer dans le téléphone. Et puis elle a disparu. Autant le journal intime, ces fragments que vous évoquiez, ils sont un peu cachés. On ne sait pas très bien d'ailleurs jusqu'où elle avait envie qu'il les découvre. Ou en tout cas que ce soit comme un graal à atteindre. Donc quand il les découvre, c'est le cœur du réacteur.
Cette histoire, elle pose la question absolument bouleversante, profonde, vertigineuse même, de la trace que chacun va laisser derrière lui, que chaque vie va laisser derrière elle. Et évidemment, là, ça pose la question de ces traces numériques qui sont en surabondance absolue par rapport aux traces matérielles et aux traces manuelles qui sont celles de notre enfance, qui sont celles de nos mères, de nos pères, de nos grands-mères, de nos grands-pères, et puis de tous ceux avant eux. Vous vous posez la question de comment on fera le tri dans ces traces surabondantes ?
Tout à fait, c'était vraiment une des questions qui est au cœur du roman et qui d'ailleurs sans doute a été le point d'entrée. Je voulais appeler le livre Les Traces aussi à un moment donné. C'est une question que je me suis beaucoup posée.
Décidément, je suis sur la piste de tous vos titres.
titres. Tout ça, de tous mes titres provisoires. Oui, moi, en tout cas, c'est une question qui me hante, je dois dire, parce que je suis vraiment d'une génération qui est à la frontière entre les deux. C'est-à-dire qu'à la fois, oui, j'ai les cartons d'archives que vous évoquez avec un certain nombre de lettres d'amour, d'amitié, de journaux intimes. Et puis aujourd'hui, mon téléphone contient aussi beaucoup de choses très intimes, très précieuses. Dont
vous les avez gardées, les lettres?
Oui.
Mais les cartes postales?
Oui, tout à fait. Moi, je garde tout.
Vous gardez tout?
Oui, à un moment donné, je me dis, est-ce que c'est parce que je suis écrivaine que je garde tout, ou est-ce que c'est parce que je garde tout que je suis écrivaine?
Vous ne pensez pas que l'humanité se divise en deux catégories? Ceux qui jettent, ceux qui se débarrassent, ceux qui veulent avancer léger dans la vie, et ceux qui gardent, ceux qui stockent,
oui,
ceux qui amassent?
Vous avez raison, probablement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans ce que j'ai gardé, malgré tout, un tri s'est opéré, parce qu'on ne peut pas physiquement tout garder. J'ai déménagé à plusieurs reprises. Donc, ce qui est aujourd'hui dans mes cartons, dans ces boîtes d'archives, c'est le plus précieux. Tandis que dans mon téléphone, le plus précieux est englouti parmi, comme vous le disiez, une abondance absolument, oui, phénoménale, pléthorique de traces qui probablement engloutiront le plus intime, le plus précieux. Et quand, dans une conversation, par exemple, je pensais aux échanges SMS avec une personne qu'on aime, le plus, oui, encore une fois, le plus beau, le plus fulgurant, cohabite avec t'es où, prends le pain STP, à quelle heure on se retrouve.
Quand on est une écrivaine et qu'on publie chez Gallimard, on écrit « prends le pain STP » et on rajoute un émoticône avec un gros sourire et un bisou.
C'est très personnel, cette question.
Oui.
Moi, j'utilise les émoticônes. Non, je ne mets pas « prends le pain STP », j'essaye de mettre un tout petit peu plus de poésie dans la vie, mais bien sûr que parfois, je vais au plus rapide.
Écoutez Patrick Modiano, il recevait son prix Nobel et c'était son discours.
Il me semble, malheureusement, que la recherche du temps perdu ne peut plus se faire avec la force et la franchise de Marcel Proust. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, la mémoire est beaucoup moins sûre d'elle-même et qu'elle doit lutter sans cesse contre l'amnésie et contre l'oubli. Mais c'est sans doute la vocation du romancier, devant cette grande page blanche de l'oubli, de faire ressurgir quelques mots à moitié effacés, comme ces icebergs perdus.
Il me semble, moi, que Je suis Romane Monnier est aussi un grand livre sur l'absence.
Oui,
sur ces êtres qui
nous manquent. Il y a à la fois cette femme qui a traversé la vie de Thomas, vous l'avez évoqué, qui a disparu. Il y a les parents de Thomas disparus trop tôt. Je pense que nous avons tous en nous ces êtres absents qui nous hantent et qui reviennent. Et là aussi, la trace qu'ils ont laissée, comment cohabiter avec elle, comment est-ce qu'on doit l'entretenir, est-ce qu'on doit au contraire la faire disparaître. Tout ça, je pense que c'est des questions qu'on se pose tous.
Parce que vous avez dit, vous venez dire, les parents de Thomas qui ont disparu trop tôt. Et la disparition volontaire, hein, c'est évidemment ce qui traverse ce roman, mais ce qui hante d'autres de vos livres. Et il y a des tas de gens en France qui ne prononcent jamais le mot « mourir ». Jamais. Qui diront le général de Gaulle est mort en 1970 ou Marilyn Monroe est morte, mais qui diront quand il s'agit de quelqu'un qu'ils aiment, il a disparu ou il est parti.
Ah oui, c'est vrai. Moi, c'est vrai que là, j'ai dit disparu, mais je dis très facilement le mot mort. Je dis ma mère est morte, je dis voilà, des gens que j'ai aimés sont morts.
Mais... Justement, parce que dans la disparition volontaire, comment ne pas avoir une forme de manière de se donner la mort, ou de se donner la mort aux yeux des autres, de se donner la mort socialement.
Pour moi, il y a vraiment davantage une question presque d'effacement et d'effacement de soi. C'est-à-dire que disparaître, c'est pas tout à fait la même chose que mourir. C'est quand même laisser la possibilité de revenir, de réapparaître, ou en tout cas l'interrogation. Qu'est-ce qu'on est devenu, où on est allé.
Pensez que Romane Monnier est vivante?
Moi, je crois que oui.
C'est vrai.
Oui. Bien sûr, je suis comme Thomas, je pense que à un moment donné, elle a sans doute éprouvé le besoin de s'effacer, de se mettre à l'abri, je dirais. J'ai entendu d'ailleurs ça sur votre antenne hier, cette idée de se mettre à l'abri, à l'abri du bruit du monde, à l'abri de ce flux, ce flot auquel nous sommes sans arrêt confrontés à travers nos téléphones, entre autres. Il y a un moment donné où tout ce bruit nous empêche de penser, nous empêche de réfléchir. Et pour moi, Romane, c'est quelqu'un qui a éprouvé le besoin probablement de faire silence.
Mais là, on parle quand même d'un homme, Thomas, qui ne sait pas si la mère de son enfant et a disparu corps et âme ou si elle est morte, et qui ne sait pas si Romane Monnier est vivante quelque part ou si elle est morte. Donc quand même, la mort, elle hante cette histoire.
J'ai envie de vous dire, c'est drôle parce que pour moi, c'est pas si important concernant ces personnages. Mais ça, c'est votre lecture, et c'est d'ailleurs ce que je trouve assez fascinant quand on commence à rencontrer les lectrices et les lecteurs de nos romans. Vous avez ce prisme de lecture. Moi, pour moi, Pauline, cette femme qui a traversé la vie de Thomas, il se pose pas la question de savoir si elle est morte. Ça a été un homme qui a été quitté, qui s'est trouvé du jour au lendemain à 20 ans après un grand amour, abandonné sans aucune explication, ce qui va d'ailleurs résonner avec des choses qu'il va trouver dans le téléphone de Romane Monnier, entré en écho. Oui,
vous voyez, si je pense
si
qu'en
c'est
fait,
le cas, c'est inconscient.
Delphine
en fait.
De Vigan, vous laissez des traces,
oui.
Vous-même, partout, qui sont vos livres.
Oui, oui.
Qui sont vos livres. Et quand on les lit les uns après les autres, alors, évidemment, on ne peut pas s'en empêcher. On vous cherche, vous. Dans les livres. On vous cherche, vous, dans Romane Monnier. On vous cherche, vous, dans Thomas. On vous cherche, vous, dans Pauline. Évidemment, on a lu Rien ne s'oppose à la nuit et on s'est dit que votre mère qui s'est donné la mort, c'est une forme de disparition. Et en même temps, c'est une disparue qui reste tellement présente.
Peut-être, vous avez raison, je comprends tout à fait cette hypothèse de lecture, et de toute façon, nos textes, je dis nous les romanciers, oui. Sont évidemment hantés, habités par nos inconscients. Donc si la mort est présente à ce point, c'est de manière tout à fait inconsciente.
Là, j'ouvre Télérama, et puis j'apprends que vous avez été malade, en même temps que vous avez écrit ce livre, ce que j'ignorais, et je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que vous qui êtes obsédé par les traces, est-ce que d'un seul coup, vous écrivant mais malade, ou malade mais écrivant, vous vous posez la question de votre propre disparition?
C'était très étonnant parce qu'en effet, j'avais commencé le texte avant d'apprendre que j'étais malade. Donc écrire un texte sur les traces, et à ce moment-là, mon titre de travail, c'était en effet les traces. Et découvrir à ce moment-là que j'étais malade. Et forcément, je dois dire, me poser la question de la mort, de est-ce que je vais survivre à cette aventure, qu'est-ce que je laisse aujourd'hui si je disparais, etc. Ça a été extrêmement, je pense que ça m'a travaillé beaucoup, beaucoup inconsciemment, et ça a rendu l'écriture du texte très, très compliquée. J'ai eu le sentiment de quelque part de perdre mon souffle. Il se trouve que c'est assez banal finalement, subi deux opérations qui touchaient à la respiration, une opération du poumon, une opération des sinus, et donc le sentiment d'avoir le souffle coupé. Or, on dit d'un roman qu'il a du souffle ou qu'il
c'est
n'en
vrai.
A pas.
C'est vrai.
Et donc, je me suis trouvée empêchée de respirer, empêchée de déployer la phrase, empêchée de voir plus loin ce que j'étais en train d'écrire, avec un jugement extrêmement négatif sur ma propre écriture. Et oui, à un moment donné, je me suis dit, mais est-ce que c'est fou, je suis en train d'écrire sur les traces, est-ce que c'est parce que c'est ce... En parlant très récemment avec une journaliste qui m'interviewait sur ce roman, Raphaël Léris du Monde des Livres, elle m'interrogeait sur le fait que peut-être je savais, en fait, inconsciemment que j'étais malade avant de commencer le texte. Et ça, je ne l'avais pas du tout envisagé. Je me suis dit, est-ce que quelque part, mon corps savait ça? Et c'est pour ça que j'ai écrit sur les traces. Ou est-ce que, voilà, c'est une pure coïncidence? En tout cas, c'est de l'envisager sous cet angle, c'était assez vertigineux.
Et est-ce que c'est un livre qui, en creux, parle aussi du corps? Alors, évidemment, vous avez écrit Jour sans fin, évidemment, vous avez écrit sur ce corps qui est le corps de l'anorexie mentale. Donc, est-ce que c'est une forme de disparition progressive? Est-ce que c'est une forme de vouloir se rendre invisible, de disparaître, que d'arrêter de se nourrir et de maigrir? Mais je me suis dit, est-ce que Romane Monnier, c'est aussi un livre sur le corps, au sens où tout est dématérialisé dans les traces que Thomas a? Tout, il ne peut plus toucher, il ne peut plus sentir, il ne peut plus voir, il ne peut plus palper, il ne peut plus caresser.
Ce qui est sûr, c'est que je me suis rendu compte en faisant des recherches justement sur cette histoire de disparition volontaire, que j'ai lu un livre de David Le Breton sur l'effacement de soi, sur les disparitions de soi, qui reliait un certain nombre de choses, dont l'anorexie, dont le coma éthylique, dont la perte du langage. Et je me suis rendu compte que tous ces thèmes-là, je les avais abordés dans mes romans. Donc cette figure d'effacement, tout d'un coup, ça reliait des choses. Et j'ai même un projet, j'en parle pas plus, qui concerne encore une autre figure d'effacement. Donc je me suis dit, c'est incroyable que tout ça soit relié par ce motif, en quelque sorte. Et oui, bien sûr qu'il y a dans le numérique la perte de quelque chose qui est quand même très charnel, presque, j'ai envie de dire, dans le papier. Quand vous retrouvez un post-it avec une trace d'un rond de café sur lequel on a écrit « Je t'aime », c'est pas du tout la même chose. Ou un dessin d'enfant. Moi, j'en ai des cartons, des dessins de mes enfants, je les garde précieusement. On se dit, non, c'est pas du tout la même chose de retrouver un SMS qui dit « Je t'aime ».
Et puis surtout, Romane Monnier, elle est là, elle est tout le temps là. Et en même temps, elle n'est pas là. Physiquement, elle n'est pas là.
Oui, mais justement, elle est presque plus là parce que par cette absence. Et c'est ce voyage que Thomas va faire dans son téléphone pour rencontrer quelqu'un, pour rencontrer aussi quelqu'un d'une autre génération que la sienne. Quelqu'un de... Romane Monnier, elle a 29 ans. Donc, elle résonne avec cette pensée de l'époque. Elle a grandi avec un téléphone... elle a eu très vite un smartphone entre les mains. Elle n'a pas connu ce téléphone en bac élite. Ou quand on vous appelait, on était obligé de décrocher sans même savoir qui vous appelait. On a oublié tous ces gestes à un moment donné qui ont été les nôtres, taper 18 fois sur une lettre pour écrire un texto. Tout ça, on a oublié. C'est ça qui est fascinant, je trouve, avec l'arrivée du numérique et du smartphone.
Et alors, vous avez repris des études de psychiatrie?
Non, c'est beaucoup dire. Je me suis inscrite à un diplôme universitaire sur la clinique de l'adolescent.
Quand même.
Oui, ça me passionne depuis longtemps. Je l'ai souvent dit dans des interviews. Oui. Ça m'intéresse beaucoup. Puis c'est l'adolescence, l'entrée dans l'âge adulte sont des périodes qui m'intéressent beaucoup, sur lesquelles j'ai déjà écrit. Et il se trouve que ça m'arrive d'animer des ateliers d'écriture dans différents contextes.
Et puis, période dans laquelle vous avez traversé quelque chose d'extrêmement douloureux, l'anorexie. Et donc, il y a été un moment où vous devez beaucoup au psychiatre, j'imagine.
Bien sûr. Oui, moi je peux dire que d'ailleurs, sans doute, on m'a sauvé la vie d'une certaine manière. Et l'hôpital public m'a sauvé la vie. Donc c'est important dans une vie.
Deux fois.
Oui, tout à fait.
Au moment de l'anorexie et puis au moment là de la maladie.
Oui, tout à fait.
C'est une belle déclaration à l'hôpital public.
Oui,
moi je
vous
remercie, l'hôpital public. Alors voilà, il y a une grande partie de l'équipe de la matinale qui a lu « Je suis Romane Monnier » qui paraît demain aux éditions Gallimard. Attention, il faut attendre demain pour aller en librairie et retrouver Delphine de Vigan en librairie. Et c'est marrant parce que toute l'équipe aime Thomas.
Oui,
tout le monde
aime
ce personnage.
Oui, moi aussi, je l'adore. Ça fait... D'ailleurs, c'est pas si souvent que je m'attache à ce point à un de mes personnages. Et pourtant, voilà, il a... Non, sans doute que j'ai mis pas mal de moi dans ce personnage. C'est un homme de 47 ans qui se trouve à un moment un peu carrefour de sa vie. Mmh. Je l'aime beaucoup, je dois dire. J'ai du mal un peu à le quitter.
Et vous savez quoi? Il a du souffle.
Merci.
On va écouter Angèle. Je me suis dit que Romane Monnier, sûrement, elle écouterait Angèle, hein? 29 ans.
Ah,
on
oui.
écoute Angèle.
Oui, oui.
Allez, on écoute Angèle.
On parle de l'altitude, toi et moi. Loin de nous, ni l'un ni l'autre n'ira. On perd notre aptitude, celle qu'on avait à rester fier. Temps, à se perdre tout le temps, loin de nous, ni l'un ni l'autre n'ira. Perdu, perdu, perdu dans, perdu. Tous ces gens m'avaient prévenu, on descend, on l'a voulu. Perdu, sans s'entendre sur notre but, on s'ennuie fort, on se tue.
prendre la mesure de ce qui m'arrivait. Et c'est arrivé sans le voir venir. Notoriété oblige, j'y prends bien du plaisir, même si j'y perds ma liberté. Vouloir trop réussir, la pression du succès des gens, les autres. Donc qu'est-ce qu'on va devenir?
Angèle chante Perdu, son tube de 2019. Et voilà, nous sommes ensemble jusqu'à 10h. À 9h45, il y aura Charline Vanhoenacker.
Bonjour la France Inter. L'éducation nationale multiplie les partenariats avec le ministère des Armées.
Ah bon?
Ah ben oui, si, si. C'est une enquête de Libé, il y a plein d'exemples. Et fini les heures de colle, là. Maintenant, c'est sans pompe et on récure les chiottes. Hein.
Daphné Burki.
Bonjour, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Ma nouvelle tête à 9h50 s'appelle Mélissa Polony de la Comédie Française.
Voilà.
C'est la nouvelle pensionnaire, je suis ravie de vous la présenter.
Elle est arrivée avec une guitare, ça c'est
oui,
surprenant pour la comédie.
Je vais donner une carte blanche.
Pour la
surprise.
Comédie française. Allez, il est 9h28 sur France Inter et c'est le débat du jour.
Il y a moins le côté, on doit forcément faire une famille ou autre. Et le coût, la vie est plus chère aussi qu'avant.
C'est vrai qu'au début, un peu comme tout le monde, je voulais un foyer, une vie familiale. Et depuis peu, avec la vie qui est un peu plus dure et un peu plus économiquement élevée, je me pose la question si je devrais avoir des enfants ou pas.
Moi j'en ai deux, mais à la base j'en voulais trois, je m'arrêterais peut-être à deux.
La France est à un tournant historique, vous l'avez lu et entendu absolument partout depuis hier après-midi. Pour la première fois depuis la fin de la guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale, le pays a enregistré plus de décès que de naissances. Alors comment expliquer cette dénatalité qu'on observe en France, mais aussi ailleurs en Europe? Eh bien, il y a deux visions qui s'opposent de cette tendance très profonde, deux visions qui s'affrontent. Peut-on parler de causes économiques et sociales, ou plutôt de causes culturelles? On en débat.
France Inter, la grande matinale, Sonia De Villers.
Voilà, et j'ai le plaisir d'en débattre avec Olivier Rey. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes mathématicien et philosophe. J'ai le plaisir d'en débattre avec Laurence Rossignol. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sénatrice PS. Olivier Rey, vous voulez nous redonner le titre de votre tract chez Gallimard ?
Des fécondités, ses raisons, ça des raisons.
Voilà, et on va parler évidemment de ce terme, hein, des fécondités. Pourquoi vous utilisez le terme des fécondités et pas des natalités ?
J'ai choisi ce terme parce que pour les êtres humains que nous sommes, il y a énormément de façons différentes d'être fécond,
oui.
Indépendamment de
oui,
l'engendrement.
Oui.
Mais cela étant, la natalité reste quand même la condition première pour que toutes les autres fécondités puissent se développer.
Alors justement, parlons-en, la baisse des naissances s'avère spectaculaire. 645 000 bébés sont nés en 2025, 2,1% de moins qu'en 2024. 24% de moins qu'en 2011, et c'est le plus bas niveau historique depuis 1942. Pour vous, Olivier Rey, c'est un signal puissant, celui d'un basculement ?
Je ne sais pas. Il se trouve que la France, depuis un certain temps déjà, se distinguait plutôt parmi les autres pays d'Europe avec un taux de fécondité supérieur à ce qu'on observe dans les pays voisins, et elle est en train de rejoindre les taux très bas des pays environnants. Je veux dire en plus que c'est un phénomène non seulement européen, mais qui va bien au-delà. C'est un phénomène mondial. En Asie, par exemple, les taux de fécondité sont extrêmement bas. En Chine, au Japon, en Corée du Sud, qui a, je crois, le record avec 0,7 enfants par femme. Et là, c'est là que l'on voit qu'il y a quand même des causes certes conjoncturelles, mais aussi des causes structurelles. Il y a une corrélation très forte, visiblement, entre ce qu'on pourrait appeler le développement, d'une part, et d'autre part, la baisse de la natalité qui s'observe sur la Terre entière.
Sauf que dans ce développement, vous voyez, Olivier Rey, la calamité, je vous cite, la perte du sens du collectif. Quelque chose d'extrêmement profond et déplorable dans la vision que les générations d'aujourd'hui ont du futur.
C'est-à-dire que le grand bouleversement anthropologique qui va de pair avec les modes de vie modernes qui s'imposent, c'est le passage d'un mode de vie communautaire à un mode de vie individualiste. Mmh. Et dans une communauté, d'abord, l'accueil des enfants était beaucoup plus facile parce que les parents n'étaient pas tout seuls pour faire face à l'arrivée des enfants. Donc, une communauté était très bien armée pour accueillir les nouveaux venus. C'est beaucoup moins le cas pour un couple isolé quand le couple, en plus, tient. Et de plus, dans une communauté, si vous voulez, tous les membres de la communauté savent que la pérennité de la communauté dépend du fait qu'ils aient des enfants. Alors que dans une grande société d'individus, finalement, c'est la responsabilité de tout le monde, mais c'est la responsabilité de personne.
Mmh. Donc l'individu prime sur le collectif, et c'est ce qui fait qu'on n'a plus envie de transmettre la vie.
C'est une des raisons.
Laurence Rossignol, vous avez beaucoup travaillé sur ces questions, parce que ce sont des questions éminemment politiques, évidemment. D'abord, vous, comment vous accueillez ces chiffres?
Peut-être dire une chose, c'est que moi, je suis une femme de gauche qui s'intéresse aux questions de natalité et de démographie.
Pourquoi il faut le préciser?
Je le précise parce qu'on a un peu tendance à penser que s'intéresser aux questions de natalité, c'est intervenir dans la vie privée et les choix individuels des personnes. Et que ce n'est pas un sujet politique que d'essayer d'agir sur la natalité, voire même d'avoir une idée sur quelle serait un bon seuil ou un mauvais seuil. Mmh. Et donc, aujourd'hui, je suis aussi préoccupée des indicateurs et du fait que la tendance de la France est de potentiellement de perdre son petit avantage démographique sur les autres
pays.
Sauf
que quand on fait comme vous, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à l'école, à l'accès aux crèches, au mode de garde, aux allocations familiales, au logement, c'est un sujet éminemment politique et pour le coup, absolument pas intrusif dans l'intimité de qui que ce soit.
C'est ce que je veux dire. Et je pense que d'abord, il y a un facteur de fond qui est qu'à partir du moment où les femmes ont pu maîtriser la procréation, La baisse des naissances est constante. Aujourd'hui, on est dans une situation particulière. Alors, il faut essayer de distinguer plusieurs types de facteurs. Est-ce que l'environnement est propice à l'accueil des enfants? Alors, bien sûr, il y a toutes les tendances larges qui sont la crainte de l'avenir, la crise écologique, etc., qui altère la confiance. Et puis après, il y a des questions sociales et collectives.
Parce que c'est pas rien d'avoir une confiance altérée dans l'avenir. Hein, oui. C'est pas rien. Pour vous, les générations d'aujourd'hui ont une confiance altérée dans l'avenir.
Je pense
que pour vous, la crise écologique fait peur et ne donne pas envie de transmettre la vie.
Je pense que ma génération ne se demandait pas, quand elle mettait des enfants au monde, si ces enfants allaient vivre une pénurie d'accès aux ressources naturelles, une guerre des ressources naturelles, un effondrement de la biodiversité qui allait rendre la vie des êtres humains plus difficile sur la Terre.
Olivier Rey, vous n'êtes pas d'accord avec ça?
Je nuancerai parce que si nos aïeux avaient attendu d'avoir des certitudes sur l'avenir, nous ne serions pas là aujourd'hui dans ce studio pour deviser.
Ça signifie quoi? Ça signifie que de tout temps, comme on disait dans les mauvaises dissertes de philosophie, de tout temps l'humanité a traversé des périodes sombres, inquiétantes, anxiogènes.
Elle n'a jamais eu de certitudes sur l'avenir, sauf c'est vraiment la singularité aussi de la modernité à partir du XVIIe siècle d'avoir eu l'idée que grâce au progrès des sciences, des techniques, de l'économie et d'un certain nombre de mesures sociales, nous allions pouvoir maîtriser notre destin. Mmh. Et ce qui se passe, c'est qu'après 3 ou 4 siècles, nous arrivons à un moment où on se rend compte que ce grand programme de maîtrise de notre destin Non, ça ne réussit pas. Et nous sommes dans un moment de dépression aujourd'hui parce que nous sommes encore habités par cette idée que l'on devrait maîtriser et que l'on ne maîtrise pas. Mais cela étant, ça n'est jamais d'une certaine manière qu'un retour à la normale parce que, si vous voulez, dans les temps médiévaux, par exemple, où il y avait la guerre de 100 ans, les pestes, etc. Bon,
On faisait des enfants. Donc là-dessus, vous n'êtes pas d'accord.
Non, moi, je ne dis pas que je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il faut nuancer tout ce qu'on dit, que rien n'est unicausal, c'est multifactoriel. Il y a beaucoup d'éléments. Mais moi, du point de ma place, c'est-à-dire du côté des politiques publiques, qu'est-ce que nous devons faire ? Alors, est-ce qu'il faut s'intéresser au renouvellement des générations ? Incontestablement, je pense qu'une société dans laquelle les personnes âgées sont écrasante et majoritaire est une société qui met en cause sa capacité à se transformer et donc c'est un poids. Donc on a besoin de la jeunesse dans une société. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Et dans les facteurs qui sont des facteurs plus conjoncturels. La crise du logement, incontestablement. Quand il y a eu des enquêtes qui ont été faites, la taille des logements est un facteur d'hésitation à mettre plusieurs enfants au monde. Les femmes font des enfants de plus en plus tard. Le premier enfant est beaucoup plus tardif puisqu'on est au-dessus de 30 ans aujourd'hui. Donc bien entendu, ça limite la possibilité d'en faire plusieurs. Parce que dans les facteurs de la dénatalité, il y a aussi la taille des familles. Les femmes vont faire un enfant et vont hésiter avant elles étaient au troisième, maintenant on hésite au deuxième. Donc ça, comment on donne aux gens la possibilité de choisir d'avoir plusieurs enfants?
Et les femmes le font de plus en plus tard parce qu'elles ont aussi des enjeux de carrière et de réussite professionnelle ou d'insertion dans le monde professionnel.
Exactement, c'est quand même assez douloureux de constater que les jeunes femmes attendent d'être complètement stabilisées dans leur vie professionnelle pour envisager de dire à un employeur, voilà, je vais m'absenter pendant quelques mois parce que je vais avoir un bébé, je suis enceinte et après je serai une mère de famille. Ça veut dire que les femmes sont toujours insécurisées dans le travail et que l'égalité professionnelle n'est pas là. Donc premier, si tous ceux qui aujourd'hui semblent s'intéresser à ça veulent agir, le travail et le logement et les modes d'accueil.
Olivier Rey, ce qui est intéressant, c'est que vous, dans votre texte sur la défécondité, ce ne sont pas du tout ces facteurs que vous mettez en avant et que vous faites primer sur le non-désir d'avoir d'enfants. Vous parlez du fait qu'avoir des enfants viendrait contredire le modèle d'une vie, comment dire, qui ne pourrait plus répondre aux sollicitations multiples, d'une vie profondément libre, d'une vie qui idolâtre les possibles, d'une quête ardente de l'épanouissement personnel.
Oui, enfin, il ne faut pas faire d'opposition artificielle. Je ne m'oppose pas du tout à ce qui vient d'être dit. Au contraire, j'y adhère tout à fait. Cela étant, c'est vrai que nous vivons dans un monde aujourd'hui qui a tendance à promouvoir un mode de vie jeune, entre guillemets, qui s'accommode mal de la venue d'enfants. Cela étant, la question de la précarité est absolument centrale. J'avais noté, ça remonte maintenant à longtemps, ça remonte à une vingtaine d'années, mais Laurence Parisot, qui était à l'époque présidente du MEDEF, avait dit « La vie, la santé, l'amour sont précaires, pourquoi le travail échapperait-il à cette loi ?»
Bon,
venant d'une femme qui, elle, n'était pas vraiment exposée à la précarité, c'était particulièrement indécent. Et puis, par ailleurs, effectivement, si vraiment nous vivons dans un monde où tout doit être précaire, effectivement, ça n'incite pas énormément à avoir des enfants. Et une grande différence par rapport aux périodes antérieures, c'est que matériellement, nos ancêtres vivaient dans un confort qui était bien moindre, mais ce qu'ils avaient en revanche, c'était une forme de stabilité. Alors qu'aujourd'hui, on peut avoir peut-être un niveau de vie supérieur, mais on est dans une telle précarité qu'effectivement, ça n'incite absolument pas à fonder une famille.
Laurence Rossignol.
Dans les aspects psychologique, sociologique, je voudrais souligner quelque chose. Nous sommes dans une société de la compétition, et j'entendais ce matin sur votre antenne Camille Peny qui insistait là-dessus. Et ce que j'observe, c'est qu'aujourd'hui, avoir un enfant suppose aussi de réussir son enfant. L'enfant est un projet de réussite. Et la mobilisation que ça demande aux jeunes parents pour réussir cet enfant, pour qu'il soit bien équilibré, pour qu'il ait toutes les meilleures conditions pour acquérir le maximum de connaissances, pour qu'il soit ouvert au monde. Mais c'est un job à plein temps aujourd'hui d'élever des jeunes enfants,
Olivier,
avec les critères qu'on met
dans les critères. Vous mettez l'éducation positive et vous dites c'est presque un repoussoir pour faire des enfants.
Ah bah oui, non mais ça certainement, mais on n'est pas obligé du tout de souscrire à ce type.
Mais en quoi l'éducation positive est un repoussoir?
Bah parce que ça engendre
ça fait lever les yeux au ciel de Laurence.
Ça engendre des enfants insupportables.
Non, mais je ne crois pas que ce soit l'éducation positive. Le fait de ne plus frapper les enfants, de ne plus les humilier, qui est quand même le sens de l'éducation positive, n'est pas en soi un facteur de dénatalité.
Je vous rassure, je n'ai jamais frappé mes enfants.
C'est aussi à l'éducation positive. Et les enfants insupportables, c'est un autre sujet, je veux bien venir en discuter. Mm-hmm. Mais ce que je pense surtout, c'est qu'il y a un enjeu personnel des parents, il y a un objectif de réussite. Mmh. Et c'est très difficile de réussir un enfant. Et ce n'est pas que l'éducation positive, c'est tout ce qu'on investit dans une société de la compétition sur le fait qu'on veut absolument armer au maximum les jeunes enfants pour qu'ils réussissent tout dans leur vie. L'amour, le travail, les relations interpersonnelles, il faut qu'ils réussissent tout. Et c'est dur pour des parents d'arriver à se mobiliser là-dessus.
Olivier Rey, j'ai l'impression qu'on ne saisit pas très bien votre angle d'attaque et votre thèse, et j'aimerais que vous la précisiez parce que c'est intéressant. Est-ce que, par exemple, vous placeriez du côté des déclinistes, vous qui citez par exemple volontiers Michel Houellebecq. Ma question, elle est la suivante. Est-ce qu'il y a quelque chose pour vous d'un monde qui est en train de foutre le camp?
Si on veut, mais cela étant, dans le texte que j'ai écrit, j'ai d'abord passé en revue toutes les raisons qui aujourd'hui poussent à ne pas avoir d'enfants, et qui sont très sérieuses, que je prends tout à fait au sérieux. Oui. Moi-même, je vis je les ai vécues, donc je sais de ce point de vue-là de quoi il est question. Mais ce que j'oppose à cela, ça n'est pas une négation de ces raisons, ni même une relativisation. C'est ce que disait Charles Péguy au début du XXe siècle déjà, qui disait que sur une terre qui a été sillonnée en tous sens, qui est aujourd'hui bien connue, les seuls véritables aventuriers qui demeuraient, c'était les parents, c'était les pères et mères de famille. Et effectivement, aujourd'hui, pour toutes les raisons dont celles qui viennent d'être dites, c'est une aventure extraordinaire, je pourrais dire, d'être parent, d'avoir des enfants, mais précisément... C'est pour cela qu'il vaut la peine de s'y lancer. De s'y lancer, non pas parce que ce serait facile, mais au contraire parce que c'est une tâche qui est digne de nous.
Digne de nous, c'est-à-dire que c'est le sens de l'humanité.
C'est un des sens, je ne veux pas tout résumer à cela, mais c'est un des sens, oui, effectivement.
Vous voulez conclure, Laurence Rossignol ?
Oui, je pense que de ma place, la question c'est quelles sont les politiques publiques qui doivent accompagner les jeunes gens qui ont envie d'enfants et qui ont trop d'obstacles. C'est ça notre sujet, sans avoir une approche morale entre les égoïstes qui ne feraient pas d'enfants et les généreux qui en feraient, parce que je crois que ce n'est pas tout à fait ça, la répartition.
Olivier Rey, Laurence Rossignol, merci à tous les deux. Et je vous invite à lire le tract sur la défécondité d'Olivier Rey.
You should be ashamed.
Louise, le choix musical de la grande matinale, la preuve que le rock n'a pas fini de se réinventer. Tous les membres de Guise sont très jeunes. Hein. Ils sont nés après l'an 2000. Voilà, ça c'est Cobra. C'est leur dernier titre et ils seront en concert en France le 7 mars à la Cigale de Paris. Il est 9h46. Joie de retrouver Charline et Daphné Burki.
Oui.
Charline, j'ai votre lancement. Les partenariats se multiplient entre l'éducation nationale et l'armée. Vous nous l'avez annoncé tout à l'heure. Une enquête de Libération révèle l'augmentation de l'enseignement militaire à l'école.
Oui. L'éducation à la défense, c'est au programme. Mmh. Et ces derniers mois, il y a de l'excès de zèle, je dirais. Il vaut mieux le savoir pour les fournitures scolaires. Les Rangers, le fusil de précision, une équerre,
allons bon.
Un casque, un brouilleur de drone et bien sûr un crayon et une gomme, sait-on jamais. Ah, ça va claquer les partenariats entre Clairefontaine et Dassault. Oui, parce que Dassault finance déjà un livret qui est glissé dans le cartable des élèves de classe défense et de sécurité globale dans les collèges et les lycées. Bah oui, j'ai amené le journal Libération parce que sinon vous n'allez pas me croire, je l'ai là. Un livret scolaire fourni par un marchand d'armes. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer, franchement, hein? Voilà, vous pensez que j'exagère, je vous renvoie. Hein. J'ai lu cette enquête dans Libé parue hier, qui raconte par exemple qu'en Côte d'Or, des lycéens ont enfilé des équipements de gendarmes et ont simulé une manifestation pour apprendre à réprimer des militants.
Non.
Ben si. Ben, écoute, Daphné, comme ça, la prochaine fois que les profs descendent dans la rue, ils sauront tout de suite comment réagir. Et en assant dès le départ les profs dans les classes, vous voyez. C'est un cas isolé? Eh bien non, parce que l'enquête grouille d'exemples. Dans le Haut-Rhin, les militaires du 152e régiment d'infanterie ont organisé un stand de tir pendant la kermesse du collège. Oh, vos têtes. Non mais la fête de l'école s'adapte aux évolutions du monde, c'est tout. Élève du COBU, après un brillant CM2, vous avez rejoint la 6e blindée du collège Valdec-Rousseau avant d'intégrer le lycée en seconde armurerie. Je me demande à quel moment les parents vont trouver ça suspect. Regarde papa! Pour la fête des mères cette année, à l'école, on a confectionné des gilets pare-balles en pâte à sel. Les élèves ciblés par ces initiations se trouvent essentiellement en zone rurale ou d'éducation prioritaire. Oui, mais ça s'explique aussi parce que vous avez déjà essayé de garer un tank en plein centre-ville? Ben voilà. Alors que dans les ZEP, pour apprendre à survivre dans le froid avec des rations militaires, ben il suffit de rester en classe pour le cours de maths. Oui. Problèmes de maths qui seront adaptés. Oui. Si Théo a 24 cartouches de 8 mm dans son fusil, mais qu'il en utilise 23 pour se débarrasser de Dimitri. Combien y en avait-il au départ? Oui, mais bon, est-ce qu'il lui reste assez de cartouches pour se protéger de Timothée qui compte annexer les pays de la Loire? Bon, alors moi je voudrais qu'à la prochaine rentrée, il y a un soldat devant chaque classe, hein, parce qu'un prof devant chaque classe, on y a cru, on a vu. Alors le budget de l'éducation a été tellement réduit que les écoles sont obligées de faire des partenariats avec l'armée pour bénéficier de certains avantages. Alors ne soyons pas en reste, service public oblige, on complète la grille de mon petit France Inter, hein, on revisite les comptes pour enfants, le petit chaperon est de l'armée rouge.
Allez.
Voilà, Jack est le commando magique, Blanche-Neige les 7 raids aériens. Avec ça, ils vont être contents à la commission d'enquête. C'est avec nos impôts, mais ça, on peut. Voilà. Alors, il y a un mois à peu près, en lisant le journal Le Monde, je tombais sur un reportage dans les écoles maternelles en Russie, où dès l'âge de 4 ans, on organise des rencontres éducatives pendant lesquelles les enfants peuvent manipuler des armes factices. 4 ans. Après tout, à quoi bon savoir compter quand on a un fusil d'assaut entre les mains? Sacha, 2 x 2, ça fait combien? Je sais pas, je m'en fous! J'ai lu ce reportage-là en me disant « Heureusement, on est en France.
Bah ouais.
Mon Dieu, quelle naïveté !» Mais Victor Hugo ne disait-il pas « Ouvrez une école, vous remplirez des casernes. » Non, c'est pas la phrase.
Ça doit pas être grave.
Ça.
Charline va donner cœur.
La grande matinale sur France Inter.
Daphné Burki. Sa nouvelle tête.
Mais oui, il est 9h50, nous sommes en direct dans le studio de la grande matinale de France Inter. Nous sommes le 14 janvier 2026, mais j'ai une question pour les amis autour de cette table. Que s'est-il passé le 5 janvier 2026, s'il vous plaît, Charline, Sonia?
Aucune idée. J'ai retrouvé vos petites têtes mignonnes après les fêtes, et moi, ma dignité quelque part entre l'ascenseur et le studio 511, qui était coincé sous un tote bag. Non, le 5 janvier 2026, ma nouvelle tête est entrée à la Comédie Française.
Oh,
et ça, c'est un événement.
Une maison.
Ils ont fondé en 1680 une troupe mythologique, j'ai envie de dire. On n'entre pas comme ça avec un CV et un LinkedIn. Ce matin, faites entrer donc la nouvelle pensionnaire de la Comédie Française, Mélissa Polony. Bienvenue sur France Inter.
Merci beaucoup.
Je suis tellement heureuse que vous soyez là. À seulement 26 ans, vous venez de décrocher la particule la plus chic, Mélissa Polony de la Comédie Française. Comment vous l'avez appelée ?
Alors, que je suis passée auxiliaire ou pensionnaire ?
Pensionnaire.
Alors, pensionnaire, j'étais en train de faire la sieste et je reçois un appel qui me réveille de ma sieste d'un numéro que je ne connais pas, donc je réponds. Et c'est Clément Hervieux-Léger qui me dit « Écoute, Mélissa, voilà, je voudrais changer la nature de ton contrat, je voudrais que tu passes pensionnaire. » Et donc là, il m'a dit « Est-ce que tu es d'accord ?» Oui, du coup.
Aïe, aïe, aïe. Ouais. Bah, parce que c'est un rêve depuis toujours.
Oui.
En fait. Vous aviez le livre vraiment de la Comédie Française
oui, vraiment,
sur votre table de nuit.
J'ai eu à Noël, quand j'étais petite, je ne sais plus à quel âge, vraiment le livre de l'histoire de la Comédie Française.
À deux ans et demi.
non,
c'est
pas,
un petit message pour les parents.
Mais je vais expliquer quand même aux auditeurs, encore une fois, comment on entre à la Comédie Française, parce que c'est un peu mystérieux cette histoire. Ce n'est pas un recrutement, c'est une adoption. D'abord, il y a donc ce premier statut, artiste auxiliaire de la troupe, c'est-à-dire qu'on vous engage sur une production, un spectacle ou un rôle. Dans votre cas, votre entrée comme auxiliaire, c'était avant-hier, le 22 septembre 2025, vous avez fait vos débuts dans Casse-Noisette ou Les Royaumes de la Nuit, mis en scène par Johanna Boyer, et vous étiez donc Clara. Et si la maison vous voit donc, si elle vous aime, si elle vous éprouve sur le plateau, en effet, parfois, et c'est rarissime, vous avez le coup de fil, vous devenez pensionnaire, vous entrez officiellement dans la troupe, vous signez un contrat et vous jouez plusieurs spectacles dans la maison, vous appartenez à la maison. Et au sommet, il y a les sociétaires, mais dans ce cas-là, vous êtes élu par la troupe et la c'est le Graal. Bref,
c'est ça.
Vous venez d'entrer dans une famille, il y a toujours des surprises dans une famille. Qu'est-ce qui vous a surpris là, tout de suite, en démarrant ?
Bah, franchement, la convivialité. Enfin, vraiment, pour moi, c'était vraiment une institution. J'y allais, enfin, j'avais un peu peur et tout.
J'imagine.
Mais en fait, enfin, tu croises Guillaume Gallienne à la cantine. Enfin, en fait, c'est une entreprise du théâtre, quoi.
Il y a quoi, la cantine de la Comédie Française ?
Écoute, il y a des frites, des fois. Il y a du fromage.
Ouais, ben voilà, tout simplement. Mais c'est mystérieux. Moi, je rêve de rentrer là-dedans. Mais on va raconter un peu, Mélissa, vous êtes une fille du Sud, vous êtes née à Cagnes-sur-Mer, vous avez grandi à Nice et ses alentours. Dès que je prononce Nice, je suis obligée, c'est comme ça, de passer ce son.
Dans l'eau de Nice, on voit passer les avions
qui s'en vont.
J'adore.
Jusqu'au bout.
À deux pas de la circulation.
Voilà, ça y est, c'est passé. C'est un toc que j'ai dans ma vie, je suis obligée de passer à Alec Mention et de passer de la Comédie Française à Alec Mention, c'est très important. En réalité, la chanson de votre enfance, et là je ne l'avais pas entendue depuis longtemps, c'est ça.
Laisse-moi être celui qui partage ta vie, oui, celui à qui tu te confies.
Eh oui, c'est Colonel Reyel.
Oui.
Vous êtes donc une petite fille à Nice. Votre rêve à la base, c'était d'être vétérinaire ou éventuellement dentiste. À quel moment vous avez bifurqué ? Qu'est-ce qui s'est passé, Mélissa ?
Bah, quand je passais en... à mon bac S. Enfin,
ah, tardivement,
ouais,
finalement.
Bah oui, en fait, moi je suis allée en filière S en me disant, bon, bah je vais être médecin. Enfin, quoi que je veuille faire, c'est dans la médecine, vétérinaire, dentiste et tout. Mais c'était tellement compliqué. Enfin, vraiment, j'étais larguée en cours, quoi. Les maths,
Mais il y a un prof qui a décelé quelque chose chez vous ?
Ouais, quand j'étais en CE2, il y a ma maîtresse, Madame Galéa, que d'ailleurs je n'ai jamais réussi
Dédicace.
À recontacter. Donc si Madame Galéa m'écoute...
Il y a des chances. Vous êtes au bon endroit.
Ouais, qui m'avait dit, Mélissa, il faut que tu fasses du théâtre et tout. J'avais dit, non, pas du tout. Et elle m'avait dit, si, tu vas faire du théâtre.
Elle a vu ça en vous,
ouais.
C'est sûr.
Je pense que j'étais un petit peu un bout en train.
Dans vos références, il y a Madame Galéa, il y a la comédienne Estelle Meyer, qu'on salue
oui,
aussi,
que
super
j'adore.
Comédienne, et la légende Lorraine Hill. Bah oui, parce que Laureline, c'est pas seulement une grande voix, c'est une artiste qui a réussi quand même l'exploit de faire cohabiter soul, hip-hop, poésie, engagement, spiritualité, ça c'est quand même fou, et une influence énorme, encore aujourd'hui, tu vois, sur les générations suivantes. En revanche, elle arrive toujours très en retard à ses concerts.
Ah bon ?
Quelquefois, elle a jusqu'à 2 heures de retard, mais ça fait partie de la légende de Lorraine Hill.
On lui pardonne.
On lui pardonne, sauf que vous entrez dans une maison où la ponctualité est une religion.
Oui. Je peux pas trop parler.
Mais vous, votre plus grande peur, c'est pas d'être en retard, c'est d'oublier votre texte, quand même.
Oui.
Qu'est-ce qui se passe? C'est des cauchemars, carrément?
Ah, mais à chaque fois, avant de jouer, y a toujours 2-3 jours avant la première, il y a les cauchemars. Mais même plus de perdre mon texte, de ne pas savoir ce que je dois faire du tout.
Cauchemar effrayant. Ah, ouais, ouais. Surtout que vous allez jouer Freya dans Bestiole, oui, de Lachlan Philpott, mise en scène par Sephora Pondy, au Studio Théâtre à partir du 22 janvier. Et vous allez aussi chanter dans La Ballade de Souchon, oui, mise en scène par François Giard, au Théâtre Montparnasse, et à partir du 19 mars. Donc vous n'avez pas intérêt à oublier votre texte. Voilà, c'est comme ça, ça ne sert à rien. Et aujourd'hui, parce que je suis comme ça, je vous ai donné une petite carte blanche et vous me faites un beau cadeau. Qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui?
Je voudrais chanter Gracias a la vida de Mercedes Sosa.
Et vous êtes très très bien accompagnée aujourd'hui par, oui, qui?
Antoine Caillou, qui est mon collègue de promo avec qui j'étais en classe libre au cours Florent.
Ben oui, parce que ça fait partie de votre grand CV. Oui. Vous faisiez partie de la fameuse classe libre du, oui, cours Florent, qui est un peu l'excellence de cette école. Alors, le studio de France Inter est tout à vous.
Merci beaucoup. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. Y en las multitudes el hombre que yo amo, gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano. Cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros.
Mais heureusement qu'il n'est pas devenu vétérinaire. C'était sublime.
Mélissa Polony, de la Comédie Française.
Oui.
Merci, oh là là, d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci Mélissa, et bravo.
Merci beaucoup.
Faut le faire pour chanter Mercedes Sosa. Très courageuse. Bravo, c'était magnifique.